Michel Villeneuve n'a pas acheté son auto au prix du gros. Évidemment, il l'a payé plus cher que tout le monde à Mauricie. Le prix du gros est fier de vous présenter le commentaire de Michel Villeneuve.
Catherine le matin. Voici Michel Villeneuve. Que la Mauricie
se lève. Salut Michel.
Hey, j'ai-tu bien entendu? On vient de passer une minute sur la mort d'un chat.
Oui, mais un petit peu. C'est la chatte la plus populaire à travers le monde.
Il y a des chattes pas mal plus populaires que ça. Bon! OK. Non, je viens dire.
Bon, là, fais pas du docteur Mayou de toi-même. Hein?
Merci. Ben, des fois, c'est pas mauvais.
Ouais, mais justement, allez, ça va bien, là, ces temps-ci. Merci beaucoup.
On continue. Bon, je sais pas comment que le Doc Mayou a trouvé la domination des Browns, mais hier, c'était pire que jamais.
Ouais.
Écoute, les Canes, je les comprends d'être un petit peu frustrés. Être à leur place, j'aurais été découragé avant même de jouer le quatrième match. J'aurais envoyé 2 points par la malle, puis ça aurait fait pareil. quelle domination de Boston.
Ouais.
Écoute, là, je me rappelle pas d'avoir vu dans une finale d'association un club dominé comme les Browns l'ont fait. Là, il faut revenir à l'époque là de où il y avait pas mal moins d'équipes, où les Oilers ou le Canadien étaient à ce point dominant. Mais je te dirais, dans l'ère hyper moderne du hockey, aïe aïe!
Oh, c'est quelque chose.
4 parties d'affilée, puis même s'il y a eu des matchs où quelquefois le pointage était serré, les Browns ont dominé du début à la fin. Puis il fallait voir jouer. Écoute, là, à chaque fois que je le vois jouer, je me dis, mais qu'est-ce qui l'anime, Patrice Bergeron? Plongé, tu mènes 3-0 dans la série, plongé pour essayer de compléter une passe, prendre des coups, des mises en jeu, faire un deuxième effort alors que t'as les deux genoux sur la glace, voler la rondelle à l'adversaire. Un paquet de petites choses qu'on pourrait facilement réaliser un petit montage, puis expliquer aux jeunes, voici comment tu dois faire pour atteindre la Ligue nationale, les petites affaires qui font la différence. Mmh. Et Patrice Bergeron est définitivement, je pense, consacré maintenant comme une grande vedette dans la Ligue nationale, et non pas un joueur qui ne se contente que du trophée Selkie.
Oui, je suis d'accord avec toi. Ouais.
J'espère,
en tout cas. Parce que quel trio.
Marchand qui m'épate de match en match. Il est aussi sans dessin que brillant. C'est comme lui, là, il y a la relation amour-haine. Hein?
Ouais.
5 minutes, tu l'adores. 5 minutes après, tu veux y arracher la tête. Mais quel duo absolument incroyable. Et Pastrnak qui en profite. Je vois pas comment que les Browns, là, ils seront quasiment au moins 10 de jours en vacances. Ça va leur faire du bien.
Oui, oui.
Ça va permettre à Shara de revenir, parce que tu sais qu'hier, Shara était pas là. Pis
non.
Il y avait pas de CC4 à part Brandon Carlo, là. C'était tous des petits défenseurs chez les Browns de Boston.
Oui, ben, c'était Shara dans une autre catégorie. Mais tu sais, le rôle de Shara, bon, hier, tu me diras qu'on s'en est pas trop rendu compte, mais son rôle est quand même important avec cette équipe-là. Là.
Absolument.
T'sais, on dit le vieux Shara, mais le vieux Shara est encore efficace, là.
Il est encore efficace, puis là, il est efficace parce qu'il y a Charlie McAvoy qui joue avec. L'équivalent de Drew Doughty chez les Kings de Los Angeles, ça aide Zdeno Chara à mieux paraître aussi. Mais tous de petits défenseurs physiques du côté des Browns, ils jouent gros, puis ils sont bons avec la rondelle. Des Torrey Krug, là, il y en ont 5, eux autres. Puis tu vois ce que ça donne, ça, la patinoire.
OK.
Pauvres arbitres, hein? Pauvres arbitres qui n'ont pas eu à faire la différence hier dans le match. Je me mets à leur place. Il me semble, tu sais, on est à l'époque du vidéo. Pourquoi que... Je sais pas si en saison régulière, c'est possible. Chaque but doit être visé.
Oui.
Tu sais, c'est... Surtout en série éliminatoire où il y a des milliers puis des millions de dollars qui sont en jeu, là. Pourquoi chaque but est pas revisé? Puis qu'on dit, OK, c'est correct, on poursuit. On laisse la place à toutes sortes d'interprétations. On n'a pas vu la passe avec la main. Hier, on montrait tous les angles où on plaçait chacun des arbitres pour savoir où ils étaient. Carey Fraser qui raconte que la position des arbitres n'est pas la bonne lorsqu'on s'approche du filet. Enlevez-leur de la pression. Laissez-les travailler. Et pour les premiers, les joueurs, les arbitres, pourquoi ils sifflent pas quand ils sifflaient en début de saison? On nous dit qu'il n'y a pas de directive de la Ligue. Faites votre job, les gars.
Ouais.
Mais j'ai vu des arbitres qui étaient trop sévères en série, puis on les laissait de côté pour les finales puis les demi-finales.
Mais t'as vu le commentaire de Rob Brind'Amour qui est allé plus loin là, que bon, ce que les gens disent, faut donner accès à la reprise vidéo. Lui, il dit, sortons deux officiels de la patinoire, plaçons-les sur le banc des punitions. L'arbitre pourrait tout de même s'attarder aux punitions, le juge de ligne au hors-jeu. Enlevons-les de la circulation. Le jeu est tellement rapide. Combien de fois ils se font frapper par la rondelle? On pourrait avoir les bonnes décisions et elles seraient rendues rapidement. Je trouve pas ça fou, Michel.
Ben, moi, j'ai trouvé que l'ajout d'un deuxième arbitre n'a rien amené au hockey.
Ah non, je suis d'accord.
Parce qu'il y a un qui surveille, il surveille pas l'ensemble du jeu, il surveille la rondelle, l'autre, il regarde quoi? Puis on laisse passer beaucoup plus de choses, mais est-ce qu'un arbitre seul serait capable de patiner, de travailler au rythme où vont les matchs aujourd'hui?
Ben, deux, pas.
On donne la chance aux deux officiels, aux deux juges de ligne de donner des punitions.
OK.
Tu vas régler le problème.
Ah ouais? Donc, toi, pour toi, la solution, c'est pas d'en sortir deux sur quatre, non? Pas nécessairement.
Non, moi, je pense qu'on a besoin. Moi, je trouvais que le système à trois était bon, okay, et qu'on donne la chance aux juges de ligne de donner des pénalités lorsqu'ils échappent aux yeux des officiels. C'est tout. Et puis, s'il y a des jeux qui sont controversés, on a le support du vidéo. Parce que les arbitres, ils sont critiqués surtout lorsqu'il y a un but qui est marqué puis il y a quelque chose qui leur a échappé. Qu'on fasse appel aux vidéos, puis qu'on mette un gars de plus dans un bureau à Toronto à regarder les vidéos, il va coûter moins cher qu'un arbitre sur la glace. Puis il va faire du meilleur travail parce que lui, il aura la chance de voir le jeu 7, 8, 10 fois au ralenti sur tous les angles, alors que l'arbitre, lui, n'a la chance que de le voir qu'une fois et en vitesse réelle.
Hey, mais question pour toi, peut-être, puis moi, ouais, je la connais pas la réponse, c'est pour ça que je te la pose, évidemment. Un arbitre dans la Ligue nationale, là, qui est là depuis peut-être une dizaine d'années, il est payé combien?
Oh, au-dessus de 200 000 $
Au-dessus de 200 000, puis en série, c'est-tu comme les joueurs, ils sont comme pas payés?
Ça, je pense qu'ils ont des bonnies à leur salaire. Ils sont payés durant l'année, mais lorsque tu fais une ronde supplémentaire, tu as des bonnies. Je pense que c'était le système qui était en vigueur.
OK.
Fait que les gars aiment ça parce que, écoute, le moment peut changer de taux, elle peut s'acheter, faire creuser une piscine à la fin d'année, si tu peux pas travailler fort. Fait que c'est plaisant de travailler en série éliminatoire.
Ça, c'est sûr.
Mais ils peuvent pas offrir leur service ailleurs parce que c'est un monopole.
Il y a ça.
ils peuvent pas améliorer leurs affaires. Hey, je t'avais pas glissé ça dans mes notes hier parce qu'on a procédé à la nomination des trois finalistes aux candidats pour le titre de gérant de l'année, ouais, dans la Ligue nationale.
Mm-hmm.
Ce qui est différent, c'est qu'on a voté après la deuxième ronde des séries éliminatoires.
Ouais.
Ça veut dire que tous les trophées, à part celui-là, tous les trophées, ouais, qu'on donne en saison régulière, ça vaut pas de la chenoute. Parce qu'il y a une saison qui compte, c'est l'après-saison.
Ben oui.
Fait que pourquoi t'honores des joueurs qui jouent dans des conditions qui ne se rapprochent même pas de celles que l'on a en série éliminatoire?
Ouais, je suis tout à fait d'accord, on devrait changer ça. Attendez la fin des séries, puis après ça, faites les nominations.
Ben, c'est ça, parce qu'écoute, là, on les honore en saison régulière. Oui, ça permet à des équipes de se lasser pour les séries, mais la seule saison qui compte où les joueurs doivent jouer dans des conditions vraiment difficile, puis les joueurs qui ont du talent, puis de la volonté hors du commun, c'est dans les séries qu'ils se démarrent. Tu vois qu'en saison, là, on le voit, là, c'est même pas la moitié de ce qu'on voit en série éliminatoire.
Non, donc,
c'est un long camp d'entraînement, puis on les glorifie.
Ouais, mais Michel, la seule catégorie, évidemment, c'est le meilleur marqueur. Tu sais, je veux dire, tu comptes des buts, là, tu sais, je pense qu'on peut pas aller contre les statistiques, mais le reste, attendez séries, puis vous déciderez après.
Je lance ça comme ça, là. Ouais. Quand est-ce que le meilleur pointeur en saison régulière, c'était peut-être Sidney Crosby qui a été le meilleur joueur en série éliminatoire?
Je pense que ça date de Crosby.
Cette année, Kucherov, c'était le meilleur joueur en saison, hein?
Oui, c'est ça.
Ça fait longtemps qu'il relaxe, hein?
Hey, Michel.
Juste pour ça serait le fun de faire un petit retour.
Je veux qu'on se parle de golf un petit peu parce que quelle journée! Moi, tu sais que mon choix, c'est Koepka. J'ai l'air bien brillante à matin parce qu'il t'a connu toute une ronde hier.
Parce que tu l'aimes. Il y a des petits chandails serrés. Il y a un beau sourire, les dents blanches.
Je suis niaiseuse, puis je fais juste regarder le physique des joueurs de golf.
Ben, écoute, c'est le fun. Comme moi, si je regarde le golf féminin, ils sont bonnes, mais j'aime ça voir les jeunes filles aussi qui ont beaucoup d'allure.
Je parle de golf, je parle du joueur. Je l'aime, ce gars-là. Je trouve qu'il est bon, puis que je peux-tu regarder sa compétence aussi. Je fais pas juste regarder les fesses des joueurs en passant, tu sais.
C'est pas mal.
Vieux macho. Vieux roteux un matin, encore une fois. Bon, bref, on peut-tu parler de golf?
Mais Koepka a été extraordinaire hier. Tu sais, sur un terrain aussi difficile que celui-là, tu joues 63, c'est un tournoi majeur. Il y a seulement deux gars dans l'histoire avant lui qui ont joué des 63 dans des tournois du Grand Chelem. Tu réussis à tenir les autres, sauf pour un golfeur, lui, qui est tout près. Tu réussis à tenir les autres à distance. Tu réussis, 6 ou 7 birdies hier. 7 birdies, pas un beau gay, tu dis waouh, tu minimises, en plus d'éviter les erreurs, tu multiplies les bons coups. Je vais te dire une chose, tu gagnes pas le tournoi le jeudi, mais tu peux te mettre en excellente position, par exemple. Il s'agit pour lui qu'il soit qu'il joue du très bon golf dans les trois prochaines rondes, puis il va pouvoir mettre la main sur un autre tournoi majeur. Actuellement, tu sais, Tiger a gagné le Masters. C'est Dustin Johnson qui est considéré le joueur numéro un au monde selon le classement des points. Mais le meilleur actuellement, c'est Brooks Koepka.
Oh, et de loin. Hey, j'ai une question, par exemple. Loin. Hier, il a dit, c'est décevant, car il faut réaliser des oiselets sur les deux normales 5 de ce parcours. Il parlait des trous là, de 516 et 609 verges. Il dit d'autant plus que je suis capable d'atteindre les verges en deux coups sur chacun d'eux. Mais donc, c'est la majorité des joueurs qui font ça?
Ben, ils sont plusieurs. Écoute, des trous normales 5 de 500, des trous normales 4 de 500 verges. Nous autres, là, un trou 500 verges, c'est un par 5.
Okay.
Mais les gars drivent la balle par-dessus les obstacles à 310, 315 verges. Il leur reste 177, 180 verges au vert, puis ils prennent un fer 8.
Ah, OK.
Avec un fer 8, là, tu mets la balle dans les airs, là, puis c'est, elle va tomber sur le vert, puis elle va s'approcher du drapeau. Là.
Ouais.
C'est pas comme si tu te retrouvais avec un bois 3, comme tous les golfeurs normaux, comme je suis l'un d'eux. Tu prends ton driver, après ça, tu prends ton bois 3, mais un bois 3, ça arrête pas, là. Ça roule. Eux autres, ça n'a pas de bon.
Ils dévissent la
balle. Ils sont tellement puissants,
ouais,
là.
Oui,
ils ont allongé le parcours à 7300 verges, puis un gars qui joue 63.
Ça n'a pas de bon sens.
Tu sais, quand la publicité dit « Those guys are good »,
hein?
Ils sont pas good.
Non, non.
Ils sont extraordinaires.
Ah,
tous ceux qui sont là, d'accord, du premier au dernier.
Oui. Bon, ben écoute, la bonne nouvelle, on va écouter ça en fin de semaine, puis on va se
ben,
parler
avec le
lundi.
Temps qu'on nous annonce, on va le temps d'écouter
on va avoir
ça.
Le temps.
Sais-tu quoi? On n'a pas le temps de jouer. Les terrains, je sais pas si c'est comme ça en Mauricie, les terrains sont tout mouillés.
Ouais.
Le gel cet hiver, la glace, les terrains sont jaunes. Tous les clubs ont de la difficulté. Même il y a quelqu'un qui me disait que je joue au Mirage la semaine passée, puis le terrain était affreux. Si le Mirage est affreux, ça doit être beau ailleurs.
Ouais, c'est sûr que c'est un printemps assez difficile. Mais bref, on va parler de golf, puis on va se reparler mardi. Le lundi, branche-toi pas parce que tu vas être tout seul. Fait que ça va être tranquille.
Ben, ça va être le fun. Je vais me parler tout seul.
C'est bon. Salut, Michel.
Je me ferai pas traiter de vieux roteux.
Non, mais c'est ça. Ben, quand t'as des bons commentaires, je te suis, mais là, ça c'était pas ta meilleure.
Je sais que c'est ton tendon d'Achille que je peux t'agacer.
La ligne est moins bonne. Salut, à mardi.
Ben, salut, bye.
OK, bye-bye. Bon Michel week-end. Villeneuve. Mardi prochain, parce que lundi, on fait relâche.